On est en direct avec Benjamin Capelli, juriste, et Julie Comparé, étudiante en droit. Tous les deux sont membres de l'asso FC Que Choisir, comme on l'a dit en début de sommaire. Donc c'est une association de protection des consommateurs et ils reviennent comme chaque mois pour une nouvelle chronique. Et aujourd'hui, on va parler des litiges télécom, le point sur les dernières recommandations de la médiatrice des télécommunications. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, vous?
Très bien.
Eh ben, on vous écoute.
Alors oui, parce que en début de mois, du coup, la médiatrice des télécommunications, elle a publié son rapport d'activité pour l'année 2023. Alors à cette occasion, justement, elle a présenté plusieurs recommandations qui concernent une part importante des litiges qu'elle a eu à traiter l'année dernière. Et si on a déjà eu l'occasion de parler des abonnements télécom dans notre chronique de juillet 2021, la sortie de ce rapport est l'occasion de se pencher sur certains litiges en particulier. Alors Julie, déjà, la médiation des télécommunications électroniques, c'est quoi?
Alors, la médiation, c'est un mode gratuit de résolution amiable des litiges entre un consommateur et un professionnel qui fait intervenir un tiers, le médiateur. Le médiateur des communications électroniques s'appuie sur l'Association de la médiation des communications électroniques qui fédère la quasi-totalité des fournisseurs de services de communication électronique, soit plus de 99% du secteur des télécommunications grand public. La médiatrice a pour mission de proposer des solutions dans les litiges qui lui sont soumis par les consommateurs. En 2003, la médiation a fait l'objet de plus de 7500 saisines. Les avis rendus par la médiatrice sont acceptés à 92% par les consommateurs et à 97% par les opérateurs. Il s'agit d'un domaine où l'intervention d'un médiateur de la consommation permet souvent de résoudre les litiges. Alors, un opérateur peut-il me facturer mon abonnement pendant une période de suspension des services?
Alors là, la médiatrice, elle rappelle que dans l'hypothèse où les opérateurs souhaitent maintenir la facturation des mensualités d'abonnement pendant une période de suspension de service, cette facturation doit être mentionnée clairement dans les conditions générales d'abonnement. La médiatrice considère en effet que l'absence d'une telle mention dans les conditions générales emporte une annulation des redevances d'abonnement facturées durant la période pendant laquelle les services n'ont pas été accessibles. La médiatrice recommande par conséquent aux opérateurs de ne pas poursuivre la facturation de l'abonnement durant la période de suspension des services si cette mesure n'est pas prévue dans les conditions générales. Cette recommandation vise en effet à éviter que le client dont les services ne sont pas disponibles subisse une facturation injustifiée qui n'est pas contractuellement fondée. Alors sinon, est-ce qu'un opérateur peut me facturer sans limite des données mobiles consommées sur un bateau?
Alors, pendant une traversée en ferry, il peut arriver que votre opérateur vous facture la consommation data effectuée et souvent à un prix très élevé. La médiatrice relève que la réglementation européenne invite les opérateurs à prendre les mesures raisonnables pour éviter à leurs clients de payer des frais supplémentaires pour des services de données en raison d'une connexion involontaire à des réseaux publics non terrestres de communication mobile. La médiatrice constate que le règlement européen laisse le choix aux opérateurs des mesures à mettre en place et que les opérateurs n'ont donc pas d'obligation de mettre à disposition de leurs clients un dispositif de blocage qui permettrait de cibler spécifiquement ce type d'usage. Cependant, un tel dispositif serait le meilleur moyen de protéger les consommateurs d'une itinérance involontaire. En effet, les téléphones sont souvent paramétrés pour effectuer des mises à jour régulières, et si l'utilisateur ne prend pas la précaution de suspendre ses mises à jour ou de désactiver ses données à l'étranger, il peut se trouver facturé de consommation émise contre son gré. Il peut en être de même pour des riverains de zones portuaires lorsque les navires ne désactivent pas leur réseau satellitaire suffisamment tôt à l'abord des côtes. Dès lors que les opérateurs mettent en place une limite financière, conformément au texte réglementaire, il n'y a pas lieu de relever un manquement de leur part. Pour autant, les consommateurs ne sont pas suffisamment protégés dans de tels cas. Quelles sont les obligations des opérateurs en cas de dégradation pendant la pose de la fibre?
Alors, lors d'un raccordement à la fibre, des dégâts peuvent être occasionnés par le prestataire proposé par l'opérateur et qui nécessitent donc une remise en état du logement ou une réparation. Cela peut être également le cas dans les parties communes de l'immeuble. Alors, la médiatrice, elle rappelle que lors du raccordement d'une adresse au réseau fibre, les opérateurs sont responsables des éventuelles dégradations causées par les prestataires auxquels ils font appel. Lorsqu'un client se plaint des dégradations lors du raccordement, il appartient à l'opérateur concerné et à lui seul d'assurer le suivi de cette réclamation en se positionnant de manière claire sur les suites qu'il entend donner aux demandes formulées par son client. Et le cas échéant, en prenant les mesures nécessaires afin qu'une remise en état puisse intervenir dans les meilleurs délais. Si l'intervention d'un corps de métier particulier, par exemple un maçon, un électricien, un peintre, est requise, et sauf hypothèse où le litige se réglerait par le versement d'une indemnisation couvrant le coût des travaux, La médiatrice invite les opérateurs, d'une part, à ne pas confier les travaux aux prestataires à l'origine des dégâts, et d'autre part, à assurer eux-mêmes le pilotage des travaux de remise en état. Alors, est-ce que l'opérateur peut modifier le tarif de mon abonnement ?
Il est fréquent qu'un client conteste l'augmentation tarifaire de son forfait pour laquelle il indique ne pas avoir été informé. Dans ce cas-là, il va souhaiter le remboursement des sommes trop perçues et le rétablissement de son ancien tarif. En effet, la législation, qu'elle soit française ou européenne, donne la possibilité aux opérateurs de modifier les conditions contractuelles des abonnements de communication électronique, et cela sans accord des consommateurs, sous réserve de leur notifier les modifications dans un délai d'un mois avant l'entrée en vigueur des modifications, et d'ainsi leur laisser la possibilité de résilier sans frais le contrat dans un délai de 4 mois. La médiatrice constate à cet égard que certaines notifications peuvent passer inaperçues pour les consommateurs, soit en raison du support utilisé pour effectuer la notification, soit en raison de la taille du caractère utilisé pour le texte de la notification, ou encore en raison de l'emplacement du texte informant les consommateurs des modifications dans la notification effectuée. Dans ce cas-là, la médiatrice recommande aux opérateurs de notifier les modifications des conditions contractuelles aux consommateurs par courrier ou par courrier spécifique, d'utiliser pour cette notification une police de caractère supérieur ou égal à 8 et de faire figurer la possibilité offerte aux consommateurs de résilier sans frais leur contrat dans le corps du texte et non tout en bas du courrier. Dois-je recevoir un contrat après avoir souscrit un abonnement à distance ?
Alors, lorsqu'un abonnement ou une option est souscrite à distance, la transmission d'une confirmation de commande est essentielle. En effet, ce document va permettre au client, d'une part, de s'assurer que l'offre mise en place correspond bien à ce qu'il souhaite, et d'autre part, d'être informé sur la possibilité dont il dispose de faire valoir son droit de tractation. Dans le cas d'un démarchage, d'ailleurs, l'envoi d'un contrat sur support durable avant sa signature est même obligatoire. Par ailleurs, il a été constaté que certains opérateurs ne conservent pas systématiquement copie des confirmations de commande qu'ils adressent à leurs clients. Ce qui, évidemment, en cas de survenance d'un litige concernant l'offre mise en place, ne permet pas de s'assurer que le client a bénéficié des informations requises. Or, il appartient aux professionnels d'apporter la preuve que le client concerné a bien été informé des caractéristiques essentielles du service, donc le prix, l'engagement applicable, etc., et de l'existence d'un droit de rétractation. La médiatrice recommande par conséquent aux opérateurs de prendre les mesures qui s'imposent afin que les confirmations de commande adressées au client soient systématiquement conservées et restent accessibles tant qu'un litige à l'offre ou à l'option souscrite est susceptible de survenir. Alors, quelles sont les informations que doit donner l'opérateur en cas de dysfonctionnement du service ?
Alors, pour éviter que les consommateurs se plaignent d'un manque d'informations de la part de leurs opérateurs lorsqu'ils subissent une interruption de leur service, que ce soit fixe, mobile ou satellitaire, il conviendrait que les opérateurs les informent mieux sur le dysfonctionnement en cause. Les consommateurs pourraient ainsi réagir et s'adapter à la situation plutôt que de la subir sans savoir combien de temps le problème va perdurer. Compte tenu du développement des moyens de communication électronique, des usages numériques, notamment avec le télétravail, l'utilisation d'objets connectés est devenue indispensable à la vie quotidienne, il est nécessaire que les opérateurs mettent en place une politique d'information des consommateurs. Préalable à toute maintenance préventive en informant des interventions planifiées et automatique via tous les supports de diffusion disponibles pour les interventions consécutives à une panne dans le cadre d'une maintenance curative. Origine du dysfonctionnement rencontré, mesures mises en place pour le résoudre, date prévisionnelle de rétablissement des services. Pour rappel, les périodes sans service ne doivent pas être facturées par les opérateurs.
Alors en conclusion, donc les sources de litige avec les opérateurs télécoms sont nombreux et l'existence d'une médiation efficace permet de résoudre une grande partie d'entre eux. Il ne faut donc pas hésiter à saisir le médiateur en cas de problème. Cette saisie peut se faire directement sur Internet. Il faut déjà toutefois avoir contacté le service client puis le service consommateur de son opérateur avant de pouvoir déposer une demande de médiation recevable. Il faut également que cette réclamation ait moins d'un an. Dans tous les cas, les réclamations peuvent être traitées par les associations de consommateurs qui disposent souvent d'interlocuteurs dédiés chez les principaux opérateurs afin de résoudre plus facilement les litiges. Au besoin, l'association pourra même vous assister pour saisir le médiateur. Donc, dans ce cas-là, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter.